Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La Bible le déclare. Un jour, Jésus-Christ reviendra. Toutes choses alors deviendront nouvelles. En ce jour, les croyants ressusciteront et ils vivront éternellement dans la présence de Dieu, dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Beaucoup s'interrogent sur la nature de la nouvelle création et de la vie éternelle. Fort heureusement, la Bible nous apporte quelques réponses à ce sujet. Elles se trouvent essentiellement dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre n'est pas toujours facile à comprendre, mais dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelques textes qui nous éclaireront sur notre espérance éternelle.
Toutefois, auparavant, Sandra va nous lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, les versets 9 à 21. Ensuite, Yann et notre invité Robert nous parleront de la signification de ce texte.
Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait en guise de mesure un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étant d'égales dimensions. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées, d'après la mesure humaine employée par l'ange. La muraille était construite en jaspe. La ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses.
Merci. Et bonjour Robert. Merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann. Et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons parlé d'une cité descendant du ciel. Et voici que le texte lu aujourd'hui nous en dévoile davantage à ce sujet.
Oui, et rappelons-le, ces visions rapportées dans le livre de l'Apocalypse sont chargées d'images qu'il faut interpréter de façon symbolique. D'ailleurs, remarquons-le, beaucoup de ces images apparaissent déjà dans l'Ancien Testament.
Que représente donc cette cité ?
La cité qui est la Nouvelle Jérusalem, représente le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Il faut toutefois savoir que cette cité nous présente l'Église telle qu'elle sera dans la nouvelle création, c'est-à-dire parfaite et rayonnante.
Cette vision de l'Église est merveilleuse, mais pourquoi est-il nécessaire de bien comprendre cette image ?
Aujourd'hui, nous pouvons facilement nous décourager en considérant l'état de l'Église. Elle semble si fragile, si vulnérable. Elle apparaît souvent ravagée par les divisions, affaiblie par de faux enseignements, compromise à cause du péché, soumise au monde.
Oui, il y a de quoi se désespérer.
Cette situation est vraie, quelle que soit l'époque traversée. Toutefois, cette vision de la cité éclatante présentée vers la fin du livre de l'Apocalypse redonne espoir. Elle nous aide à persévérer dans la vie de l'Église. Elle nous encourage à vivre pour Jésus. Cette vision confirme les paroles que l'apôtre Paul a écrites à l'église de Philippe. « Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » L'Église reste au cœur des desseins de Dieu. Le livre de l'Apocalypse nous prouve que Dieu la rendra triomphante. Il achèvera l'œuvre d'amour qu'il a commencée en elle.
Merci Robert pour cet encouragement. Mais revenons à présent sur les détails du texte lu. La ville est décrite en forme de cube, dont les côtés mesurent 12 000 stades. Je n'avais encore jamais entendu parler d'une ville de forme cubique. Quel est donc le sens de cette description? Et puis, quelle est la taille de cette ville?
Le cube est l'image de la perfection, du travail fini. Dans la nouvelle création, le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, sera parfait. De plus, tous ceux et celles que Dieu aura rachetés y seront présents. Pas une seule personne ne manquera à l'appel. Puis cette cité en forme cubique est énorme, car 12 000 stades représentent environ 2 000 kilomètres.
Effectivement, cette ville est immense, gigantesque.
Oui, car Dieu a racheté un peuple nombreux. Des multitudes composées d'enfants, d'hommes et de femmes forment l'Église.
Et que dire des portes? Il y en a trois dont chacun des quatre murs forme la muraille.
Oui, ces portes sont orientées vers le nord et le sud, ainsi que l'est et l'ouest. Cette image raconte que l'Église accueille des personnes issues de la terre entière, quelle que soit son origine, sa nation ou sa tribu. Mais un autre détail suggère le même message.
Lequel?
Les fondations des murailles de cette ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Ces pierres évoquent la diversité de l'Église, ainsi que sa beauté. La diversité de l'Église, d'ailleurs, rend sa beauté d'autant plus éclatante. Toutes sortes de gens habiteront cette cité glorieuse. Un nombre incroyable de races et de nationalités différentes y seront représentées. Des êtres aux personnalités et dons opposés se tiendront côte à côte. Les arrière-plans de chacun seront si riches en diversité. Mais pourtant, tous seront comme une pierre précieuse, merveilleusement belle, à la valeur pour Dieu inestimable. Chacun contribuera à la beauté et à la gloire de l'édifice.
Merci. Et une dernière question avant de conclure. Il est écrit que sur les fondements de la ville sont inscrits les noms des 12 tribus d'Israël, ainsi que ceux des 12 apôtres. Quel est le sens de cela?
Le chiffre 12 évoque la perfection, ou encore toute œuvre achevée. Le fait que les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres soient cités évoque pour moi l'unité du peuple de Dieu, qu'ils soient issus de l'ancienne alliance ou de la nouvelle. L'Église s'appuie sur les promesses de Dieu données aux hommes tout au long de l'Ancien Testament. Elle s'appuie aussi sur l'enseignement des apôtres contenu dans le Nouveau Testament. Dieu accomplira les desseins qu'il a révélés aux hommes. Dans l'éternité, la réalisation de ces promesses deviendra évidente, même si aujourd'hui, nous pouvons en douter.
Merci Robert pour votre participation aujourd'hui. Nous continuerons cette conversation sur la cité dès notre prochaine émission.
Oui, chers amis, soyez rassurés. Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée et elle deviendra parfaite. Car le jour viendra où l'Église resplendira en beauté et en gloire. Une multitude de peuples aux origines diverses la constituera. En ce jour, elle vivra en harmonie, dans la paix, la prospérité et la sécurité, avec son roi et son sauveur. Que ses pensées, cette espérance, vous aident à persévérer dans la joie et la reconnaissance, dans cet âge présent où l'imperfection de l'Église peut aujourd'hui décourager. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.
Merci Robert. À présent, nous allons passer à notre courte méditation biblique. Nous nous attarderons encore sur les écrits de l'apôtre Jean en parcourant sa première lettre. Mais d'abord, Sandra va nous lire au chapitre 2, les versets 28 à 29. Puis Claude nous fera part de ses réflexions.
Mes enfants, demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. Vous savez que le Christ est juste. Reconnaissez, par conséquent, que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui.
Bonjour à tous. Rappelons-le, l'apôtre Jean écrit cette lettre à des chrétiens troublés parce qu'ils avaient reçu des enseignements mensongers. Encore de nos jours, des gens captivants et convaincants peuvent colporter un enseignement nouveau, annoncer des promesses attirantes. Et ils veulent que nous les croyons. Que faire alors? L'apôtre Jean nous exhorte à nous méfier de telles personnes. Il nous encourage à demeurer attachés à Jésus, aux enseignements transmis par les apôtres que nous trouvons dans la Bible. Dans les versets que nous venons de lire, Jean de même nous rappelle un jour Jésus reviendra. Et il nous implore de ne pas nous retrouver dans la honte ce jour-là. Si nous nous mettons à suivre les idées des faux enseignants, alors nous nous éloignons de Jésus. Non, nous devons lui être attachés. Suivre les faux enseignants, c'est comme tourner le dos à Jésus. C'est le quitter. Puis l'apôtre Jean écrit, « Vous savez que le Christ est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. » Comment comprendre le sens de ce verset? L'apôtre Jean nous aide à discerner qui peuvent bien être les faux enseignants, chose d'ailleurs quelquefois difficile à discerner. L'apôtre Jean l'explique. Un chrétien authentique, et particulièrement s'il enseigne, doit refléter, même imparfaitement, quelque chose du caractère de Jésus. Christ est juste, droit et pur. Tout chrétien doit alors aspirer à reproduire ses qualités, avoir soif de faire des progrès dans la droiture et la pureté. Les faux enseignants avaient-ils troublé les croyants à qui Jean écrit, en leur faisant croire que cet aspect de la vie chrétienne n'est pas important? Étaient-ils libertins? Croyaient-ils que l'on peut se conduire n'importe comment du moment que l'on croit à leurs mensonges et que l'on recherche une nouvelle connaissance cachée? Mais aujourd'hui, comment reconnaître les enseignants malhonnêtes? Si un individu nous raconte un message différent que celui de Jésus et des apôtres, et que de plus il mène une vie déréglée, on peut se demander s'il est véritablement chrétien. Voici quelques indices permettant de déceler si une personne est débauchée. S'adonne-t-elle à la consommation excessive d'alcool ou de drogue? Est-elle malhonnête? Détourne-t-elle des fonds financiers pour ses propres intérêts? Exploite-t-elle les chrétiens pour devenir riche et mener une vie luxueuse? S'adonne-t-elle aux relations sexuelles en dehors du mariage? Utilise-t-elle sa position pour profiter des femmes ou de jeunes enfants? Quel que soit l'enseignement de tels orateurs, ils ne pratiquent pas la justice de Jésus-Christ. Alors l'apôtre Jean l'affirme, ils n'ont pas connu la nouvelle naissance. Méfions-nous de telles personnes, fuyons loin d'elles. Écoutons plutôt ceux dont l'enseignement est fidèle à la Bible, ceux qui aspirent à ressembler à Jésus, ceux qui mènent une vie droite, intègre et pure.
Merci Claude pour cette mise en garde importante. Nos deux séries se poursuivront la prochaine fois. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.